Nous reprenons ce panorama sur les âges au cours desquels le Seigneur notre Dieu a mis en place son plan par étapes. Nous arrivons maintenant, avant que le temps de cette nation soit terminé, nous arrivons tout de suite au temps des nations, car le temps des nations prend naissance alors que l'on est encore assez éloigné de la venue du Messie et que Israël existe toujours et a toujours une certaine place sur son territoire. C'est le temps des nations. Pourquoi l'appelons-nous le temps des nations? Eh bien, nous empruntons cette désignation au Seigneur Jésus-Christ dans Luc 21-24. C'est un verset très important. Nous avons eu l'occasion, il y a 2 ans, je crois, de faire l'étude du discours eschatologique de Jésus. Nous sommes là dans le discours eschatologique. Alors, verset 24. « Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. » Il s'agit des Juifs. « Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis, c'est-à-dire achevé. Alors, le Seigneur Jésus, nous sommes arrêtés il y a 2 ans sur ce verset particulièrement, bien sûr, mais le Seigneur Jésus nous dit ici, et c'est une annonce prophétique, que la ville de Jérusalem allait être foulée aux pieds. C'est arrivé, en effet, à partir de l'an 70 de notre ère, foulé aux pieds par les nations. En effet, j'ai montré que bien des nations vinrent à Jérusalem et y firent ce qu'elles voulurent. Mais cette action-là des nations sur Jérusalem ne pourra pas se prolonger au-delà de la fin du temps des nations. Par conséquent, 2 choses marquent une fin, la cessation de cette discrétion qu'ont les nations sur Jérusalem, de cette possibilité qu'ils ont de s'y implanter, d'y faire ce qu'elles veulent. Alors, cessation de cette chose, et en même temps, cessation du temps des nations. Alors, nous avons vu qu'en 1967, les Israélites, légitimes propriétaires de Jérusalem, à la face du monde, il faut dire cela, ce sont les seuls légitimes propriétaires de Jérusalem, et pas parce qu'on a fait une mosquée sur le terre-plein du Temple, que les Arabes ont un droit sur Jérusalem, elle ne leur a jamais été donnée par personne. Ils l'ont prise en profitant de ce temps où les nations peuvent librement fouler Jérusalem. Ils l'ont prise et ils voudraient la conserver maintenant. Elle n'appartient qu'au peuple d'Israël. Le reste du peuple d'Israël qui commence à être rassemblé, c'est à lui que Dieu a donné Jérusalem. Et Jérusalem est la ville de l'Éternel. La gestion de cette ville appartient au peuple d'Israël uniquement et pas à l'Église. Alors, par conséquent, nous disons qu'en 67, les légitimes propriétaires sont revenus à Jérusalem, et par conséquent, le temps des nations est fini à ce moment-là. Alors, j'ai expliqué pourquoi on voyait encore des nations, mais j'ai montré aussi, par bien des observations, que les nations sont en voie de dégénérescence, de dégradation et de perte. Les difficultés au sein de ces nations grandissent constamment. Je viens encore de lire certaines informations. Notre frère qui est là m'en a procuré une, qui vient du ministère des PTT. et qui est une photocopie d'un tiré à part d'une revue. Il y a là un assez long article, très documenté encore, tout récent, et qui déclare bien que les difficultés au sein des nations sont énormes. Le Club de Rome, qui réunit des sociologues, des philosophes, mais essentiellement des économistes, ce Club de Rome, il y a déjà plusieurs années, et qu'il affirme que les difficultés sont insurmontables et que même on est engagé dans un processus irréversible. Alors donc, ne nous étonnons pas que le temps des nations soit achevé sans que nous ayons devant nous l'achèvement total, pur et simple de l'existence des nations. D'ailleurs, il ne s'agit pas de cette cessation. Les nations vont continuer d'exister, mais c'est le temps des nations qui est terminé. Ne nous étonnons pas de cela, puisque l'ancienne alliance elle-même, qui était en quelque sorte révoquée dès le jour de la Pentecôte, naissance de l'Église, c'est-à-dire en l'an, mettons, 29, puisque le Christ est né un peu avant le commencement de notre ère, en l'an 29, eh bien, cette ancienne alliance continue tout de même, mais en s'amoindrissant, d'aller jusqu'à l'an 70, où elle est complètement interceptée. Alors, ne nous étonnons pas de cela. Mais le temps des nations, donc, nous occupe comme une grande période dans le dispositif de Dieu, parce que ce temps des nations prend naissance, non pas au commencement de notre ère, comme d'aucuns l'ont dit sans savoir ce qu'ils disent. Pour savoir ce qu'on dit, il faut étudier la Bible, il faut l'étudier de A à Z. Le temps des nations commence avec Nebuchadnezzar en 586 avant notre ère. C'est là que commence le temps des nations, nous allons le voir. Il commence avec Nebuchadnezzar, que l'on appelle aussi Nabucodonosor II dans les histoires profanes. Et ce temps finit avec la reprise de Jérusalem en vue de l'établissement du royaume de Dieu. Car attention, Jérusalem est reprise par ses légitimes possesseurs en vue de l'établissement du royaume de Dieu. Chers amis, attention, nous chrétiens, n'est-ce pas, voyons bien la vertu de cette chose. C'est le royaume de Dieu qui commence à poindre. Car le Seigneur Jésus ne sera roi de toute la terre à Jérusalem. Il sera, je le rappelle, il faut le rappeler constamment, il sera roi de Jacob. Le Nouveau Testament le disant, il sera roi de Jacob et roi des rois de toutes les nations. Et il règnera sur Jacob, donc Israël, éternellement, et son règne n'aura point de fin. Par conséquent, c'est l'établissement du royaume de Dieu sur la terre, dont j'ai parlé dimanche soir, qui est en vue. Alors, nous avons au sujet du temps des nations deux informations surnaturelles qui se trouvent dans le livre de Daniel. Alors, je ne vais pas commenter les deux, parce que cela nous demanderait trop de temps, mais la première se trouve au chapitre 2 du livre de Daniel, et on peut la prendre soit à partir du verset 12, soit à partir du verset 24, nous prendrons le verset 24 pour la lire, et elle se trouve aussi au chapitre 7 de Daniel. Dans ces deux chapitres, il y a, de part et d'autre, deux songes, un songe d'un côté, un songe de l'autre. Un songe dans le chapitre 2, un songe dans le chapitre 7. Le premier songe, c'est le roi Nebuchadnezzar qui le reçoit. c'est lui qui a le songe et Daniel vient l'interpréter. Non seulement l'interpréter, mais rappeler au roi quel a été ce songe, ce qu'il y a eu dans ce songe. Et puis au chapitre 7, c'est Daniel lui-même qui a un songe. Chapitre 7 au début, la première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Donc, un songe à Nebuchadnezzar, interprété par Daniel, et un songe à Daniel lui-même. Mais ces deux songes ont trait à la même grande affaire, c'est-à-dire, nous allons voir la succession des grands royaumes, disons, la forme générale que va prendre le temps des nations. Il va une forme globale, si vous voulez, avec quatre compartiments, quatre divisions. Mais le premier songe est donné à Nebuchadnezzar pour qu'il voie l'extérieur des choses, c'est-à-dire, en somme, l'aspect historique, purement historique, c'est cet aspect que nous regarderons, et puis Daniel a un songe sur le même objet, mais pour voir, lui, l'intérieur des choses, lui qui est un auxiliaire de Dieu, Dieu lui donne une information particulière à lui-même. C'est pourquoi le songe de Nebuchadnezzar et celui de Daniel ont le même objet, quoi qu'en ont dit certains interprètes qu'on nous jette dans les jambes et qui sont des gens qui démolissent tout et qui n'étudient pas véritablement la Bible dans son entier. Alors, il y a des gens qui ont de l'imagination, et puis alors, ils vous lancent des interprétations dans une revue, dans un livre, pour se méfier de tout ça. Donc, deux informations, et c'est celle du chapitre 2, le songe de Nebuchadnezzar, que nous allons lire et qui va nous retenir. Je ferai des allusions à l'autre songe, mais nous ne pouvons pas prétendre en maintenant méditer les deux. Alors, chapitre 2, verset 24. « Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arjok, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. » Parce que les sages de Babylone n'avaient pas pu interpréter, rappeler au roi quel était son songe. Il alla et lui parla ainsi. « Ne fais pas périr les sages de Babylone, conduis-moi devant le roi et je donnerai au roi l'explication. » Arjok conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi. « J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. » Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belshazzar, « Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication ?» Daniel répondit en présence du roi et dit, « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, au roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci, et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si le secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta, et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne, elle remplit toute la terre. Voilà le songe, nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelque lieu qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après quoi il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume, qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils, en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ses rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel, et il ordonna qu'on lui offrît des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit: « En vérité, votre Dieu, » il parle à tous les amis de Daniel en même temps, « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret. » Ensuite, le roi éleva Daniel. Nous nous arrêtons ici. Ainsi, cette statue que le roi a vue dans ce songe représente la succession dans l'avenir de quatre royaumes. Quand Daniel dit « Roi, tu es la tête d'or », il veut bien dire que c'est son royaume, puisqu'ensuite il va parler de royaume. Alors voilà un schéma, c'est un schéma, n'est-ce pas ? C'est pas la représentation de ce qu'a vu Nebuchadnezzar. Mais c'est un schéma de cette statue qui est debout, et j'ai marqué des numéros en rouge qui montrent les quatre parties correspondant à quatre royaumes. Le premier royaume, c'est celui de Nebuchadnezzar, il occupe les versets 37 et 38, « Tu es le roi des rois ». Et c'est de Dieu que cette parole est venue, que voulez-vous, elle est consignée dans la Bible, qui est la parole de Dieu en toutes ses parties. Par conséquent, Nebuchadnezzar est institué le roi des rois. À lui est donnée une domination. Le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Nous dirons pourquoi Dieu fait cela. Je le dirai un peu plus tard, tout à l'heure, mais notons la chose. Dieu donne par conséquent puissance, force et gloire. Il a remis entre tes mains, en quelque lieu qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous, c'est toi qui es la tête d'or. Toi et ton royaume, tu es la tête d'or. C'est le premier royaume. Ce premier royaume fut vaincu par Cyrus en 538 avant Jésus-Christ, et il dura donc 70 ans environ. Environ 70 ans. Le second royaume part donc de la prise de Babylone par Cyrus en 538 avant notre ère. C'est un empire à double structure, et c'est le numéro 2. Il est représenté dans la statue par la poitrine et les bras. Il est à double structure. C'est en effet l'empire des Mèdes et des Perses, qui va se prolonger, lui, plus longtemps, jusqu'en 332. Alors là, ce sont des données historiques que je confronte avec la prophétie, n'est-ce pas, qui va durer jusqu'en 332 avant notre ère, soit 206 ans. Cyrus est un personnage tout à fait particulier. Lui qui va venir mettre fin à l'empire de Nebuchadnezzar, dont le Seigneur Dieu ne peut pas assurer plus longtemps la durée. C'est un personnage très important dont nous parle Ésaïe, le livre d'Ésaïe, au chapitre 44. D'abord, au chapitre 44 d'Ésaïe, lisons les versets 27 et 28. Je dis à l'abîme, dessèche-toi, je tarirai tes fleuves. Je dis de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie, et du temple qu'il soit fondé. Bon, je m'arrête là, nous reprendrons la lecture après. Je dis de Cyrus. C'est étonnant parce que cette prophétie, nous pouvons la dater approximativement, puisque Ésaïe a parlé pendant 60 ans, n'est-ce pas? Alors, nous ne savons pas quelle est la place de cette prophétie dans le cours des 60 années de ministère d'Ésaïe. Mais enfin, ce ministère se situe, mettons, 7 siècles avant notre ère. Et par conséquent, Cyrus est nommé ici plus de 100 ans avant sa naissance, et environ 160 ans, environ, avant son action d'éclat, que sera la prise de Babylone. C'est assez curieux, n'est-ce pas, de voir cela. Nous n'avons que deux cas comme cela, trois cas avec le Seigneur Jésus-Christ, mettons, mais trois cas seulement dans toute la Bible. Lisons au chapitre 45, verset 1. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus. Cyrus, quoique roi païen, prince païen, est oint de Dieu pour un certain service. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main, pour terrasser les nations devant lui, et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes. « Afin qu'elle ne soit plus fermée, je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Voyez-vous, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, et que tu ne sois pas encore né, qu'il y a encore un siècle au moins avant ta naissance, je t'appelle par ton nom, et quand Cyrus prendra connaissance de cette prophétie, il se verra nommé, lui, un siècle environ avant de naître. Et voyez, c'est intentionnellement, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Et c'est merveilleux. Et alors, dans ce verset 2, il est parlé de rompre les portes d'airain, de briser les verrous de fer, et de te donner des trésors cachés. Alors ça, s'est accompli littéralement. Lorsque Cyrus est venu contre Babylone, il s'est trouvé que, en effet, Dieu avait rompu les portes d'airain en ce sens que Cyrus les a trouvées ouvertes. Et les verrous de fer n'étaient pas tirés, et Cyrus, par le moyen de bateaux, est entré dans Babylone. Vous savez que Babylone était à cheval sur l'Euphrate. Voilà donc quelque chose de très important. Nous voyons toujours que c'est le Seigneur, le maître de l'histoire, qui conduit les événements. Là, il a voulu un empire corrompant, il a donné une domination sur d'autres rois. Naturellement, dans l'empire de Nebuchadnezzar, il y avait des nations, il y avait de plus petites nations qui étaient sous sa domination. Il dominait sur tout le monde qu'on appelle le monde civilisé d'alors. Et Dieu suscite donc d'avance un prince, Cyrus, dont il fait son oint, pour mettre fin à l'empire de Nebuchadnezzar, et ensuite, alors, va se former un second royaume. Par conséquent, c'est le second royaume qui, je l'ai dit, est l'empire des Mèdes et des Perses. Les Mèdes et les Perses étaient frères. Après la prise de Babylone par Cyrus, l'empire va se constituer, cet empire des Mèdes et des Perses, très vaste, très grand aussi, va se constituer par le dynamisme perse. Les Perses étaient vus comme des gens qui dévoraient. C'est le mot généralement employé, ils dévorent et ils parviennent à former ce grand empire qui va du sud vers le nord. Il réunit cet empire 127 grandes provinces et englobe la plus grande partie du monde civilisé à l'exception de la Grèce. Voilà le deuxième empire, représenté par la poitrine et les bras. Et maintenant, parlons du troisième royaume. Le troisième royaume vient à la chute, naturellement, de l'empire médo-perse en 332 avant notre ère, et cette chute est provoquée par la campagne extravagante d'Alexandre le Grand, qui était un général macédonien, fils du roi Philippe, et qui avait à l'époque 25 ans. Et lui va fonder alors un vaste royaume, c'est le ventre et les cuisses de la statue, le numéro 3. La course, car c'est une véritable course qu'il va faire. Il est parti avec une armée très réduite, qui va s'amplifier d'une façon extraordinaire. Il est parti avec 35 000 hommes. Et il va faire une véritable course vers l'Orient, à travers tout ce monde, une course impressionnante, comme celle d'un bouc dont les pieds touchent à peine le sol. Et c'est ce qui est dit dans Daniel, au chapitre 8, car il y a, je ne peux pas vous expliquer tout le livre de Daniel, nous en avons fait l'étude ici, mais enfin, je vous montre simplement des points caractéristiques, au chapitre 8 et au verset 5. « Comme je regardais attentivement, voici un bouc venait de l'Occident, Macédoine est en Occident, hein, c'est Alexandre. Un bouc venait de l'Occident et parcourait toute la terre à sa surface sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux, c'est-à-dire une grande puissance, C'est une course véritablement qu'il fait. Seulement, Alexandre ne continua pas longtemps à régner sur ce grand ensemble, à peine l'avait-il constitué, qu'il mourut. Il mourut en 333, le 13 juin exactement, âgé de 32 ans. Et il mourut de maladie dans les jardins du palais babylonien. La corne était brisée, alors Daniel 8, alors j'ai lu 8.5, je lis maintenant 8.8, le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. Quatre grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux quatre vents des cieux. Oui, c'est des prophéties claires comme le jour, ça. Enfin, la grande corne se brisa, Alexandre meurt. Et alors s'élèvent quatre cornes, quatre grandes cornes, ce sont les quatre royaumes qui se forment dans ce grand ensemble d'Alexandre, que Alexandre avait constitué, les quatre royaumes qui naissent et que... se partagent les quatre généraux d'Alexandre qui, lui, n'avait pas d'héritier. Il avait épousé une princesse d'Orient qui était, paraît-il, la perle d'Orient, mais elle ne lui avait pas donné d'héritier. Alors, en somme, la corne est brisée et se forment, après Alexandre, quatre royaumes, quatre cornes, voyez comme... l'écriture, la prophétie de la Bible est quelque chose de sérieux, mes amis, quelque chose de sérieux, et il y a encore après tout un chapitre 11 qui va être consacré à l'un de ces quatre royaumes en particulier, et au royaume aussi égyptien. Bon, alors les quatre royaumes, je vais vous les dire tout de suite, ces quatre royaumes... C'est le royaume syro-babylonien, comprend la Syrie et une partie de la Babylonie, et il est appelé ensuite, dans le chapitre 11 de Daniel, le royaume du Nord. Et puis, un deuxième royaume, c'est le royaume égyptien, l'Égypte, où le général qui y vient se nomme Ptolémée, et c'est lui qui va alors... installer en Égypte une nouvelle dynastie, la dynastie des Ptolémées. C'est le roi du Sud, dans Daniel 11. Puis le troisième royaume, c'est le royaume grec, gréco-macédonien, de Cassandre, général Cassandre. Et puis le quatrième, c'est le royaume bithynien de Lysimachus, mais ces deux derniers nous intéressent peu dans l'histoire du salut. Dans l'histoire du salut, ce sont les deux premiers qui nous intéressent particulièrement, le royaume syro-babylonien et le royaume égyptien de Ptolémée, le roi du Nord et le roi du Sud. Israël, en ce temps déjà, avait perdu son autonomie. De 301 moins 301, c'est-à-dire 301 avant notre ère, n'est-ce pas, à 198 avant notre ère, on le voit sous la domination égyptienne. Puis, ensuite, on le trouve rattaché à la Syrie, et enfin, en continuant encore, soumis
à l'Empire romain. Par conséquent, c'est fini, en somme, le temps des nations correspond aux siècles pendant lesquels Israël aura cessé d'exister comme une nation indépendante ou même comme une nation tout court, puisque à l'an 70 de notre ère, ce sera la diaspora, la dispersion des Juifs. Les quatre royaumes dont je vous ai parlé n'ont pas place dans la statue. La statue ne leur fait pas place, et je vais vous montrer dans la suite pourquoi, n'est-ce pas, ils ne font pas place. L'erreur, c'est de vouloir leur donner la place, la quatrième place. Ils ne comptent pas, ces royaumes-là. Ils ne comptent pas, et le quatrième qui vient là, c'est l'Empire romain. L'Empire romain, qui, lui, en somme, part très tôt, puisque j'ai dit qu'Alexandre était mort en 333, et c'est déjà en l'an 300 avant notre ère. Avant notre ère, c'est-à-dire en somme 33 ans après la mort d'Alexandre, que Rome devient déjà la grande puissance de l'Italie. N'est pas encore la puissance mondiale qu'elle va être, mais la puissance, la grande puissance de l'Italie, alors que la ville de Rome, précédemment, était une petite ville, si l'on peut même l'appeler ainsi, une petite bourgade qu'Hérodote ne daigne même pas nommer. Hein ? Rome était donc quelque chose d'insignifiant. C'était une bourgade où se réunissaient des cultivateurs d'un peu partout. Alors, l'Empire romain, par conséquent, apparaît déjà vers 300, non pas tout à fait comme empire, mais comme déjà une puissance qui monte. Et puis, alors, un siècle plus tard, c'est-à-dire en 201 avant notre ère, c'est la victoire de Scipion sur Hannibal, et cette victoire donne à Rome déjà une extension considérable, et Rome, l'Empire romain commence là à se former vraiment, et il devient la puissance méditerranéenne. Alors, en continuant, Rome va un peu plus tard, 8 ans plus tard, briser la Macédoine, et soumettre également, encore un peu plus tard, quelques 7 ans plus tard encore, soumettre la Syrie. La Syrie sera donc, lui sera soumise en 190 avant notre ère. Alors, c'est évidemment la marche extraordinaire de cet empire qui annexe l'Afrique du Nord, qui détruit Carthage en 146, qui s'empare de la Grèce, de l'Espagne en 133 avant notre ère, de l'Asie mineure en 129. C'est l'empire qui dévore, qui prend, n'est-ce pas ? Et cet empire géant qui se constitue, c'est l'Empire romain, et c'est lui qui a la quatrième place. Les quatre royaumes n'ont été en somme que une transition pour arriver à ce quatrième empire, mais ils n'ont pas véritablement de place dominante. Et la fin de l'Empire romain, quelle est-elle la fin de l'Empire romain ? Eh bien, je vais peut-être vous étonner, mais la fin n'est pas arrivée. L'Empire romain n'est pas fini. Il n'est pas arrivé, il n'intervient pas dans la prophétie, il va jusqu'au retour du Seigneur. C'est lui le quatrième empire, et c'est alors qu'à un moment, la petite pierre qu'aucune main n'a détachée vient, heurte la statue qui est volatilisée, et cette pierre devient une grande montagne, un grand royaume qui remplit toute la terre, c'est le royaume de Dieu. Ici, la prophétie lui consacre 4 versets. C'est beaucoup, alors que le troisième et le second n'avaient que peu de choses, 4 versets. Et en effet, cet empire va avoir, prendre au cours des temps, des aspects différents. Il aura en somme, si l'on peut dire, quatre phases qu'esquissent la prophétie de Daniel. D'abord, verset 40. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout. Il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. Ah, c'est bien le caractère de l'Empire romain. Hein? Alors là, c'est la phase conquérante. La phase constitutive de l'Empire, la phase conquérante. Puis vient le verset 41. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Connaissons le schisme, n'est-ce pas? L'Empire d'Orient et l'Empire d'Occident, déjà. Ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose, de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Bon, ça c'est une seconde phase qu'on peut appeler la phase de la division, celle du schisme, la phase de la division. Et déjà apparaissent là des faiblesses. Il y a toujours cette force du fer, elle est encore là, cette force combative, mais il y a des faiblesses qui se manifestent dans le sein de l'Empire. Puis le verset 42, « Et comme les doigts de pied étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. » C'est la phase alors très nette de la dégradation de l'Empire. Puis, le verset 43, « Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances. » C'est bien que le fer et l'argile a deux significations, voyez-vous. « Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. » Ça, c'est la phase des nations engendrées par l'Empire romain, et cette phase, nous la connaissons maintenant, les nations de l'Occident que nous connaissons sont tout simplement ces parties de l'Empire romain, qu'à travers l'histoire, d'ailleurs, nous voyons que des grands chefs, des empereurs même, Charles Quint par exemple, ont entendu reconstituer, plus récemment encore en Allemagne, l'empereur d'Allemagne a entendu reconstituer, son but était de ressouder l'Empire romain, mais les alliances ne tiennent pas, parce que le fer et l'argile ne peuvent pas s'allier, ne peuvent pas tenir l'un à l'autre. Alors ça, c'est la phase des nations engendrées, et c'est après cette phase que vient la petite pierre qui se détache de la montagne sans le secours d'aucune main, qui brise le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or, qui sont volatilisés. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Eh bien, évidemment, ce qui peut nous étonner, c'est que la petite pierre vient frapper la statue au pied, et puis tout se volatilise. Le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. On pourrait dire, mais l'airain, l'argent, l'or, mais c'est passé, ça. Ce sont les empires du passé que nous venons de nommer, n'est-ce pas? L'empire babylonien de Nebuchadnezzar, l'empire des Mèdes et des Perses, l'empire d'Alexandre. C'est fini, c'est historique. Alors, voyez comme il est nécessaire d'étudier la Bible dans son entier. Dans d'autres parties, et particulièrement dans l'Apocalypse, la Bible nous montre que ces empires, ces royaumes, qui en effet historiquement ont disparu, ont tout de même légué au quatrième royaume et aux nations qui naissent dans ce quatrième royaume, l'Empire romain, ont légué des éléments durables de culture et des tendances durables. Et c'est très
très intéressant, en effet, de reconnaître cela. Il y a un peu du premier empire, il y en a du second, il y en a du troisième. Par conséquent, le songe expliqué par Daniel nous dépeint véritablement la vérité lorsqu'il nous montre que, en effet, c'est toute la statue qui est volatilisée. Car tout cet esprit, tous ces éléments culturels, et même, je dirais, ces caractères, des caractères dominants qui sont descendus jusqu'à nous maintenant, tout cela est volatilisé, car le royaume qui s'établit, royaume de Dieu, lui, ne veut absolument rien prendre, naturellement, des caractères de ceux qui l'ont précédé. Et alors, nous pouvons remarquer ceci. C'est que donc Israël, lui, va être emporté dans ce souffle étonnant, n'est-ce pas, de l'histoire, et que la chose avait été prédite déjà avant Daniel, dans l'Ancien Testament, il y a déjà une prédiction sur l'action de Rome, par laquelle Israël, lui, cesse d'être une nation et perd tout à fait son indépendance. Et c'est dans le livre des Nombres que nous aurons, auquel il faudra que nous donnions une petite place avant la fin de cette session, puisque c'est prévu au programme, et nous sommes un petit peu en retard, n'est-ce pas? Vous voyez, on n'est pas toujours maître des choses, c'est pas nous qui sommes maîtres des choses, d'ailleurs, n'est-ce pas? Et c'est dans le chapitre 24 des Nombres, et au verset 23 et 24. C'est Balaam, ce curieux prophète, et qui cependant est saisi par l'Esprit de Dieu, et qui prononce ceci. Balaam prononça son oracle et dit, « Hélas, qui vivra après que Dieu l'aura établi? Mais des navires viendront de Kittim. Ils humilieront l'Assyrien, ils humilieront l'Hébreu, et lui aussi sera détruit. Et qui sont ces navires venus de Kittim? Kittim, eh bien, désigne essentiellement, après avoir porté certaines désignations antérieurement, il désigne maintenant essentiellement les Romains. Les Romains. Alors, vous voyez, n'est-ce pas, cette prédiction, des navires viendront de Kittim, c'est-à-dire de Rome, ils humilieront l'Assyrien, ils humilieront l'Hébreu. Maintenant, les navires, ce ne sont pas toujours des navires qui porteront les légions romaines, mais ce sont ces navires-là sont considérés comme des forces, des puissances venues de Kittim. Avant la fondation de l'Empire romain, donc, il n'y avait absolument rien à Rome. La force de cet empire, qui se forme relativement en peu de temps, lui vient de ses légions, c'est-à-dire de son militarisme, de son organisation très poussée, de la discipline et du dévouement à l'État que les Romains surent apporter au service de l'Empire. C'était alors le royaume de fer. À ce moment-là, c'était le royaume de fer du verset 40. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer. Et là, il n'y a pas d'argile, là, à ce moment-là. Il n'y a pas d'argile. Fort comme du fer. Mais ensuite, nous avons les jambes de la statue. Et les jambes de la statue, ces jambes de fer, ces pieds en partie de fer et en partie d'argile. Et puis, ce quatrième empire est lui-même vu dans le songe donné à Daniel au chapitre 7, comme je vous l'ai dit, il est vu au verset 7, sous la forme d'animaux, là, d'animaux extraordinaires. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable, et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, voyez-vous. Il mangeait, brisait, il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Il avait 10 corps. Et il avait 10 corps. La statue a des pieds mélangés aussi de fer et d'argile, et il y a 10 doigts aux pieds, n'est-ce pas ? 10 doigts de pied. Il avait 10 cornes. Et alors, que va-t-il se passer ? Il va se passer au fil des décades que toutes les richesses de ces nations conquises vont naturellement affluer. Ils vont affluer de partout, à Rome et dans l'Empire, et ils vont provoquer un enrichissement extravagant, au point que cela amènera très vite une débauche et une corruption effroyable. Et puis ce n'est pas tout. Le service militaire qui est imposé d'abord, tout d'abord, essentiellement aux Romains, c'est-à-dire en somme aux Italiens maintenant, si vous voulez, ce service militaire touche beaucoup de paysans, de cultivateurs. C'était eux qui formaient la population. Alors, très jeunes, ils sont appelés à l'armée, et ils y restent des années. Ils ne sont libérés que, quelquefois, ils restent 15 ans, 20 ans, même plus, dans les légions, tant qu'ils ont de la force, tant qu'ils sont jeunes. Et alors, ces gens qui vont à l'armée sont obligés d'abandonner leur ferme et leurs terres, les terres cultivables, et ces terres elles-mêmes vont rester là, inutilisées pendant un moment, mais bien vite on va les vendre, et puis il y aura des acheteurs avec les richesses accumulées, des acheteurs, et ces acheteurs vont eux-mêmes constituer des domaines extraordinaires, de très grands domaines, qu'ils feront travailler par des multitudes d'esclaves. Mais alors, lorsque la population elle-même du noyau de l'Empire, du noyau italien de l'Empire, lorsque cette population sera libérée du service militaire, reviendra pour raison déjà d'âge, mettons à 40 ans, 45 ans, alors cette population, que fera-t-elle ? Elle sera poussée vers les villes, et là, elle sera gagnée par la corruption. Et on voit donc se former une population qui vit de quelques petits revenus. L'État, évidemment, soutient les anciens légionnaires, un petit revenu, et se présentera dans l'Empire romain déjà cette antithèse du capitalisme et du prolétariat. Un capitalisme énorme et un prolétariat. Et cela n'est jamais bon, évidemment, cette coexistence de deux classes aussi distantes l'une de l'autre. Et puis, alors autre cause de désagrégation, il fallut engager des mercenaires dans l'armée tellement les exigences étaient grandes dans tous les azimuts, il fallait des légions de tous les côtés, et l'on en engagea des mercenaires, des hommes qui, alors, n'étaient pas comme les premiers légionnaires venus de Rome, ils étaient prêts, eux, à toute rapine. Ils ne pensaient qu'à la rapine. Et puis, en outre, des chefs ambitieux apparaîtront dans l'armée, des guerres civiles même commenceront à prendre naissance, et nous voyons que la force, en effet, du fer et la faiblesse de l'argile seront ensemble. Force d'un côté, mais faiblesse de l'autre. Les Romains ont été appelés les ravisseurs du monde.
ils prennent, ils dévorent, ils saisissent. Ils ont été appelés les ravisseurs du monde. Cependant que leur action servit à préparer l'entrée du Christ, l'entrée du Messie dans le monde. Sa tâche à cet empire fut celle de rassembler pour le temps de l'Évangile. Rendez-vous compte de ce qui serait arrivé si cet empire ne s'était pas constitué. Il y aurait une foule de petites nations cloisonnées, dans lesquelles il aurait été difficile de pénétrer, les voies de pénétration n'auraient pas été construites comme l'ont fait les Romains, et par conséquent, les premiers chrétiens missionnaires, apôtre Paul le premier, auraient eu du mal à gagner les provinces, les autres régions qui auraient été, seraient restées à ce moment-là constituées en nations bien resserrées sur elles-mêmes. Alors là, il y eut une tâche de rassemblement pour l'Évangile, et l'Empire romain, en dépit des persécutions qu'il va faire peser sur les premiers chrétiens, offre à l'Évangile des voies de communication et des possibilités de déplacement d'une contrée vers une autre. L'Occident et l'Orient ne formeront, grâce à cet empire, en somme, qu'une seule nation, ce qui ouvrait les portes à l'Évangile. Et l'on peut dire que l'Empire romain fut le berceau du christianisme en ses premiers âges. Les avantages que l'Empire romain offrit à l'Évangile, au christianisme, disons, sont... D'abord, l'unité d'un vaste empire, comme je viens de le dire, avec des voies de communication. L'unité d'un vaste empire. On pouvait, et ça c'était le libéralisme romain, on pouvait se déplacer d'un bout à l'autre de l'empire. Et puis, une unité culturelle. Au début, ce n'était pas le latin que l'on parlait, mais le grec. Le grec. Dans l'empire romain, l'on parlait le grec. Le grec, en effet, devint le langage unique employé dans les relations internationales. Et il était compris partout. Il était compris partout. C'est pourquoi nos évangiles sont écrits en grec. C'est pourquoi même dans le cours du IIe siècle, à Lyon par exemple, Irénée enseignera l'évangile en grec encore. N'est-ce pas? Cela supprimait une énorme difficulté à l'avance missionnaire, car s'il y avait eu tous les langages particuliers des différentes nations et des différents pays, n'est-ce pas, tous ces dialectes qu'on parlait, eh bien les pauvres missionnaires auraient été fort en difficulté, tandis que là, armés du grec, parlant eux-mêmes très bien le grec, ils pouvaient se faire entendre partout, et quant aux langues, aux dialectes particuliers, ils trouvaient facilement, comme nos missionnaires le font maintenant en Afrique, des interprètes. Cette universalité, peut-on dire, du grec à ce moment-là, est essentiellement due à Alexandre. C'est Alexandre le Grand qui va, en quelque sorte, répandre une culture hellénistique, l'hellénisme, n'est-ce pas? C'est ainsi qu'on appelle cette culture grecque. L'hellénisme va s'étendre, et puis l'Empire romain va en hériter. Il hérite de l'action d'Alexandre. C'est pourquoi, vous voyez, n'est-ce pas, entre Alexandre, le troisième étage, là, le troisième royaume, et l'Empire romain, il y a continuité, les petits empires qui se sont, les fragments qui se sont constitués, n'ont pas compté pour grand-chose, sauf dans une relation particulière dont Daniel nous parle entre le roi du Nord et le roi du Sud. Mais dans cette succession des grands empires, l'Empire romain est véritablement l'héritier
de l'empire d'Alexandre. Et puis, ce fut aussi la paix. N'oublions pas que, en dépit des persécutions, toujours, il y avait, à ce moment-là, dans l'Empire romain, une paix unique. Parce que là, c'est Rome qui imposait la paix partout. Et par conséquent, la paix, évidemment, était cet élément, on ne peut mieux, favorable à l'extension du christianisme. Lorsque le christianisme fut implanté en Occident, et que déjà, alors là, il s'était bien accroché partout, alors l'unité apportée par l'Empire romain se détériora, se détruisit même, et l'Empire romain va s'en aller, n'est-ce pas, complètement alors en déliquescence, sa faiblesse lui procure sa destruction, mais il n'est pas mort pour autant. Hein, il n'est pas mort, il est sous-jacent, il semble mourir, mais réapparaît, et c'est ce que nous dit l'apôtre Jean dans l'Apocalypse, il disparaît pour un temps, comme mort, mais il réapparaît. Il réapparaît. Et il réapparaît sous la forme de l'empire de l'Antichrist. Cette fois-ci, non plus pour servir le christianisme, mais pour l'asservir. Pour l'asservir et le détruire. N'oublions pas cette lutte des ténèbres contre la lumière. Cette lutte de Satan contre, je ne dirais pas Dieu, mais je dirais particulièrement le Christ. Lutte de Satan contre le Christ. Satan n'a pas réussi à la tentation. Pendant les 3 ans de ministère du Seigneur Jésus, il a encore tenté certaines choses, sans en avoir l'air, mais il a procuré au Seigneur des épreuves, mais il n'a pas réussi non plus. À Gethsémané, il a livré la grande offensive, avec naturellement la force spirituelle. Il sait bien que contre un Christ, c'est la force spirituelle qu'il faut employer. Et il a employé, par conséquent, cette force, mais là encore, il a été vaincu, et le Seigneur a dit maintenant, Satan est jeté dehors. Satan est condamné. Puis, il a précipité le Christ dans la mort, avec Judas. Il était en Judas, il est rentré en Judas, il a précipité dans la mort. Il ne peut pas arriver à aboutir à autre chose. Quand on lui résiste, il ne peut faire que ça. Et alors, là, ça a été sa condamnation. Mais le Seigneur, le Dieu des armées, lui laisse vie et existence, nous le savons, jusqu'au millénium où il sera lié et jeté dans l'abîme pour le temps du millénium. Il sera ensuite libéré pour très peu de temps, et après, c'est les temps de feu qui l'attend. Mais pour l'instant, n'oublions pas la lutte du royaume de Satan contre le royaume de Dieu qui fait irruption sur la terre. La lutte des deux royaumes. Et lorsque Dieu prend des dispositions, Dieu a voulu l'Empire romain. Le peuple d'Israël n'est plus l'instrument dans ses mains et qu'il peut utiliser. C'est pour ça qu'après le retour de Babylone, en 536, avant notre ère, le Seigneur décide du temps des nations. Il va ouvrir le temps des nations, car Israël n'est plus l'instrument qui peut lui servir pour les peuples en faveur des autres nations. Et je vous ai toujours dit, n'est-ce pas, que Dieu pense à tous les peuples, à toutes les nations. Je vous l'ai montré. Alors, Dieu ouvre le temps des nations. Israël est gardé parce que c'est de lui que va sortir le Christ. Alors, il est gardé pour cela.
mais il n'est plus vraiment l'instrument dans la main de Dieu. Et Dieu se donne alors ses nations, il ouvre le temps des nations pour ouvrir la terre à l'évangile. Nebuchadnezzar, et puis l'empire des Mèdes et des Perses, mais tout ça va aller en se dégradant, l'or, l'argent, l'airain, le fer, ce n'est plus l'or, n'est-ce pas, de la tête, ça va toujours avec les hommes en se dégradant, et alors là, Dieu arrivera au quatrième empire, et au début de ce quatrième empire, là, il préparera nettement les possibilités d'extension rapide du christianisme. Quand le christianisme va venir sur la terre, le Seigneur Jésus lui-même d'abord, son ministère, puis sa mort, et puis sa résurrection, puis la Pentecôte, alors là, le Seigneur veut que la terre soit ouverte au christianisme, et c'est l'Empire romain qui lui sert de cela. Mais Satan va se ruer sur cet empire romain. Il va s'efforcer de le corrompre autant qu'il le pourra, et il va s'efforcer de le morceler. Mais de cet empire romain sortent 10 nations, et ces 10 nations, nous allons les retrouver à la formation toute prochaine de l'empire de l'Antichrist. L'empire de l'Antichrist va utiliser ces 10 nations et lui-même va être la corne, la puissance qui va émerger au sein de ces 10 nations pour alors accomplir finalement le but que Satan s'est donné de détruire absolument le peuple des saints, qu'il n'y ait plus rien. L'Église, entre-temps, devra être enlevée, mais lui va poursuivre, essayer de détruire aussi le peuple d'Israël, car il y a, comme Hitler l'a bien vu d'ailleurs, Hitler qui était un type d'antichrist, il y a 2 ennemis de Satan, principalement sur la terre, c'est le peuple juif. Même s'il n'a pas encore l'esprit, le peuple juif est porteur d'une promesse, est porteur d'une prophétie qu'il concerne, d'un rétablissement, et le diable le sait, il sait mieux lire la Bible que vous, mes amis. Il le sait, ça. Et puis alors, il y a le peuple chrétien, et Hitler voulait détruire les deux, le peuple juif et le peuple chrétien. N'oublions pas qu'il a fusillé des chrétiens. Il voulait détruire aussi le christianisme. Et c'est ce que l'Antichrist va s'efforcer de faire sur toute la terre, détruire le christianisme et le peuple juif, pour que la pensée de Satan, le Seigneur Jésus, s'il revient, ne trouve absolument personne sur la terre. Et s'il n'y avait personne pour accueillir le Seigneur Jésus sur la terre, que pourrait faire Dieu ? Frapper la terre d'un jugement définitif. Et la reconstitution de cette terre, la palingénésia de cette terre, serait hors de propos. Voyez-vous, n'est-ce pas la lutte des deux royaumes ? Et cet empire romain qui a servi donc à la rapide extension de l'Évangile va être utilisé à la fin par l'Antichrist pour s'opposer au dessein de Dieu. Voilà les plans, voilà l'histoire telle que la Bible nous la montre et que nous avons à connaître, mes amis, nous avons à connaître ces choses. Nous ne pouvons pas les ignorer. Les ignorer, c'est marquer de l'indifférence et dire « Oui, ça c'est la parole de Dieu, mais je m'intéresse à ce qui me plaît, je laisse le reste. C'est trop compliqué pour moi, peut-être. » Ça n'est pas compliqué si l'on veut et si l'on demande la grâce de Dieu. Amen.